Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, le temps de la Passion débute aujourd'hui. Jusqu'à présent, depuis le mercredi des cendres, l'Église nous a incités, surtout, à imiter notre Seigneur dans sa retraite et son jeûne au désert, à nous couper d'avec le monde, à macérer notre chair par la privation de nourriture, afin de vaquer plus librement aux choses de Dieu. Mais à partir d'aujourd'hui, notre marche vers la fête de Pâques, vers la résurrection de notre Seigneur, infléchit légèrement sa courbe. Il nous faut quitter le désert pour nous diriger vers le Golgotha. Nous devons maintenant fixer nos yeux sur l'homme de douleur, considérer ce qu'il a enduré pour nous, combien grandes ont été ses souffrances. Car rien, absolument rien, n'égale la douleur endurée offerte par notre Seigneur. Aucune autre souffrance ne peut lui être comparée. Il y a eu dans l'Ancien Testament des figures par lesquelles Dieu a voulu lui-même nous en donner quelque idée, mais ce ne sont là que des figures. Chacune d'elles, prise en particulier, ne représente qu'une partie de tout ce que notre Sauveur a souffert, et même prise tout ensemble, elle n'en donne qu'une faible image. Car peut-on comparer l'envie de Caïn avec la jalousie des docteurs de la loi et des pontifes de l'Ancien Testament, le meurtre d'Abel avec le supplice de la croix, Isaac disposé à recevoir de la main de son père Abraham la mort, avec Jésus sacrifié par le Père éternel à la haine de ses ennemis, le patriarche Joseph, persécuté, vendu par ses frères, calomnié par la femme de Putiphar, finalement enfermé dans une étroite prison. Et Joseph a bien, sous ses traits, quelques rapports avec notre Seigneur, trahi par ses disciples, accusé par la synagogue, livré à des soldats. Mais ce n'est là ni toute la passion, ni ce qu'il y a de plus sensible dans la passion. Il est bien triste de voir David chassé de Jérusalem par son propre fils, abandonné de ses sujets, réduit à prendre la fuite, à monter pieds nus, tête nue, la colline des Oliviers, tandis que Séméi, armé de pierres, le poursuit, l'accable d'injures et de calomnies. Mais David, dans ses tribulations, mérite-t-il plus de compassion que Jésus-Christ, lié comme un criminel, couronné d'épines, succombant sous la pesanteur de la croix et montant au calvaire pour y souffrir la plus infamante des morts. Job même, étendu sur son fumier, couvert d'ulcères, raillé par sa femme, accusé par ses amis, souffre moins que le Fils de Dieu et souffre avec moins de patience. Et si nous laissons là les figures du Sauveur, et passons à ceux qui se sont faits ses imitateurs, les imitateurs de sa passion après la fondation de l'Église. Beaucoup de martyrs ont été réconfortés au milieu de leur peine par le Dieu des consolations. Et leur mort n'a souvent pas eu ce caractère si honteux qu'a eu la croix de notre Seigneur. Attendite et videte si es dolor si cu dolor meus. Prêtez attention et regardez si les douleurs semblables à la mienne. Non, aucune souffrance n'égale celle de notre Seigneur. Car dans la passion, il a ressenti une douleur réelle et sensible d'une très grande intensité, causée par des supplices corporels, mais également une douleur intérieure, une immense tristesse comme il n'y en a jamais eu. Ces douleurs furent les plus intenses que l'on puisse endurer dans la vie présente. Et saint Thomas nous donne quatre raisons pour cela. Tout d'abord, première raison donnée par saint Thomas, la douleur corporelle atteignit au paroxysme, car la mort des crucifiés est la plus cruelle de toutes, la plus cruelle des morts. Ils sont en effet cloués aux mains et aux pieds. Là, qui sont des parties du corps, où les nerfs sont très nombreux et extrêmement sensibles. Le poids du corps augmente continuellement cette douleur, et le supplice dure de longues heures. Les crucifiés ne meurent pas en un instant, comme ceux qui périssent d'un coup d'épée ou d'une balle dans la tête. Ajoutons à cela que se forme dans le corps des crucifiés un épanchement de liquide autour des poumons et du cœur qui rend chaque respiration, chaque battement de cœur extrêmement douloureux. Et notre Seigneur avait subi auparavant la flagellation, de terribles coups de fouet qui lui avaient labouré tout le dos, et les boules de plomb dont étaient garnies les lanières de cuir étaient venues se ficher profondément dans ses flancs et dans ses côtes. Quant à la douleur intérieure, le cœur de notre Seigneur était écrasé du poids des péchés de tous les hommes de tous les temps, des péchés les plus abominables, les reniements, la haine de Dieu, ces péchés terribles. En particulier de la chute des Juifs, ce peuple choisi, éduqué, aimé pour recevoir le Messie. Les péchés de ceux qui lui infligèrent la mort, les péchés de ses disciples qui l'abandonnèrent et qui l'attendaient au pied de la croix, et il n'était point là. Deuxième raison donnée par saint Thomas, ses douleurs restent sans comparaison, car le corps du Christ était d'une complexion parfaite, et ainsi son sens du toucher était d'une délicatesse extrême, ce qui faisait que les souffrances étaient ressenties avec une très grande acuité. Troisième raison, pour souffrir davantage. Notre Seigneur ne se servit pas de sa raison, des puissances supérieures de son âme, pour trouver un dérivatif, une distraction à sa souffrance. Bien au contraire, il a utilisé toutes les puissances de son âme pour se concentrer sur ses souffrances et les ressentir à plein. Il a voulu les goûter, si l'on peut parler ainsi, à leur maximum. Toutes ces raisons réunies montrent à l'évidence que la douleur du Christ a été la plus grande. Mais c'est surtout la quatrième raison donnée par saint Thomas qui nous en montre toute l'étendue. Car ces souffrances furent assumées volontairement en vue de libérer l'homme du péché. Le but de ces souffrances, c'est la quatrième raison, était de délivrer l'homme du péché. Et quand on sait ce qu'est le péché, ce que sont les péchés, leur nombre, leur gravité, il fallait des souffrances extrêmes. Il faut qu'il y ait une... Dieu a voulu qu'il y ait une proportion entre les souffrances endurées par le Fils de Dieu et les péchés à réparer. Arrêtons-nous sur cette quatrième raison. Creusons cet argument de saint Thomas. Le but des souffrances, c'est la libération des péchés. Saint Thomas affirme catégoriquement que la passion a été voulue par Dieu comme la cause propre de la rémission des péchés. La cause propre. Et il n'y en a pas d'autre. Tout d'abord, car la considération des souffrances du Christ, les souffrances de notre Dieu, est un puissant excitant pour nous pousser à l'aimer en retour. Il est mort pour nous, de la mort la plus atroce qui soit, de la plus douloureuse qui soit, et quelqu'un resterait insensible, resterait de glace à contempler le Fils de Dieu qui meurt pour nous sauver de nos péchés. La preuve que Dieu nous aime, nous dit saint Paul, c'est que dans le temps où nous étions encore pécheurs, le Christ est mort pour nous. Dans le temps où nous étions encore pécheurs, il est mort pour nous. Il est mort pour des ennemis. Or, l'amour de Dieu grandit par la contemplation de la passion. C'est surtout en contemplant la passion de notre Seigneur que nous l'aimerons davantage. Et quand l'amour grandit, l'amour de charité grandit, alors nous obtenons le pardon de nos péchés. C'est de ces deux extrêmes. L'amour de Dieu et le péché s'opposent radicalement. Quand on grandit dans l'amour, cela chasse le péché. Selon la parole de l'Écriture, ses nombreux péchés lui ont été remis parce qu'elle a beaucoup aimé. La passion opère également par mode de rédemption, c'est-à-dire de rachat. Une rédemption, c'est un rachat. En raison de l'union réelle qui existe entre notre Seigneur, tête du corps mystique, et nous, ses membres. Sa passion, qu'il a subie par obéissance et par amour, nous a délivrés de nos péchés, comme si sa passion était le prix de notre rachat. Et c'est parce que nous sommes ses membres que le Christ a pu se substituer à nous pour nous racheter du péché. Il a pris sur lui nos péchés, à notre place. Enfin, la passion opère par mode de causalité. Elle nous pousse à l'amour, elle agit par mode de rédemption, elle agit par mode de causalité. Notre Seigneur, vrai Dieu et vrai homme, a souffert dans son humanité pendant la passion. Or, il y a en notre Seigneur deux natures, la nature divine et la nature humaine. Mais ces deux natures sont unies dans la personne de notre Seigneur, la personne du Verbe de Dieu. Ainsi, la chair dans laquelle le Christ a souffert a été l'instrument de sa divinité, et c'est en raison de sa divinité que ses souffrances, dans sa nature humaine, ont la vertu de chasser le péché. La passion de notre Seigneur institue ainsi la cause de notre libération. Et par cette cause, et encore une fois, il n'y en a pas d'autre, à tout moment, n'importe quel péché, présent ou futur, peut être remis par cette cause. Mais, car il y a un mais, cette passion doit nous être appliquée pour que nous en profitions et soyons lavés de nos péchés. Et sans cette application, nous ne profiterons pas du sang versé par notre Seigneur. Cette passion sera inutile pour nous si elle ne nous est pas appliquée. Cette application doit se faire tout d'abord par les sacrements, surtout par les sacrements de baptême et de pénitence, dont l'effet propre est d'effacer les péchés, d'appliquer la passion pour effacer les péchés, mais également par l'Eucharistie, qui nous unit encore plus profondément, plus intimement à notre Seigneur en tant que Christ souffrant, que Christ crucifié. Quand nous communions, nous nous unissons à Jésus-Christ crucifié, à sa passion. Voilà ce à quoi nous communions, à la passion de Jésus. Application par les sacrements, mais aussi application qui doit se faire par la foi. Saint Paul d'ailleurs nous avertit, Dieu a destiné le Christ à servir de propitiation par la foi en son sang. Par la foi en son sang. Belle expression. D'où l'importance pour nous de contempler souvent les scènes de la Passion. Dans notre chapelet, bien sûr, les mystères douloureux. Dans la méditation quotidienne, qu'il serait bon que nous fassions, ou au moins la lecture spirituelle, et de revenir souvent sur des sujets qui touchent à la Passion. L'exercice du chemin de la croix aussi, en cette période de carême. Et nous ne devrions jamais passer une seule journée sans nous remémorer ce que nous avons coûté à notre Seigneur. Profitons donc bien de ce temps de la Passion qui commence aujourd'hui pour nous replonger dans les récits de la Passion tels qu'ils ont été écrits par les quatre évangélistes. Profitons de ce temps que nous avons avant Pâques pour relire 1, 2, 3, voire tous les récits de la Passion dans les évangiles. Que de richesses pour nos âmes Quelle source inépuisable pour couper avec le péché, se défaire d'une mauvaise habitude, être poussé à une générosité toujours plus grande, à l'acceptation de la croix, cette croix que nous avons tous apportée, et plus qu'apportée à aimer, comme notre Seigneur a aimé sa croix. Il n'y a qu'à puiser à cette source intarissable de sanctification qu'est la passion. Et tous les saints s'y sont abreuvés. Et s'ils sont devenus des saints, c'est parce qu'ils s'y sont abreuvés. Il nous faut faire de même. Il nous faut faire de même. Que la Vierge des douleurs nous en donne donc la grâce, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.